IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier, en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio IMO.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, ravi de vous faire vivre IMO, le congrès FNAIM, pendant deux jours au Carrousel du Louvre. Je suis bien accompagnée puisque j'ai le plaisir d'être avec Charles Marinakis. Bonjour.
Bonjour Bérénice, ça va?
Présidente de Sotirivatia, ça va et vous?
Ouais, super.
Alors un petit mot peut-être sur ce congrès, comment ça se passe pour vous? Alors.
Écoutez, moi très bien, c'est une journée de vacances. Pour moi, je ne fais que saluer mes confrères, discuter avec eux, parler d'immobilier. Donc c'est vraiment très agréable. Voilà, j'ai pas de stand, 121 est juste simple visiteur. Et on est très très contents, beaucoup de gens que nous connaissons évidemment, et puis, ouais. Et puis on aime bien la FNAIM chez 121.
Alors je vous voyais arpenter les stands tout à l'heure, c'est quoi vos attentes? Juste discuter, parler business peut-être?
Pas d'attente particulière, si ce n'est encore une fois saluer mes confrères de la profession, prendre un petit peu le pouls aussi, comme on le fait dans différents salons, que ce soit au RENT, même si ici c'est évidemment très orienté métier de l'immobilier. Donc on est très content de rencontrer nos confrères, de prendre un petit peu le pouls de la température du métier, leur ressenti terrain, de voir aussi celles et ceux qui font l'effort d'être là, d'être exposants, mais pas d'attente particulière en fait. Voilà.
Alors on est dans un contexte assez particulier hein, avec la motion de censure du gouvernement. Ça a impacté le congrès puisque Valérie Létard devait intervenir à plusieurs reprises. Elle est ministre démissionnaire donc elle ne peut plus s'exprimer. En tant que chef d'entreprise, en tant que patron, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de cette motion de censure au vu de ce qui se passe à l'Assemblée Générale peut-être plus globalement? À l'Assemblée Nationale, pardon.
Moi, je considère qu'il y a une forme de mépris absolu, si vous voulez, à la fois pour le peuple français d'une part, et en particulier pour les entreprises. Voilà. Ce que je trouve de tout à fait désolant, c'est que il y a une politique politicienne qui s'est mise en place. On sait tous que cette censure, elle ne tient au fait que des ambitions politiques des uns ou des autres, sans prendre parti pour quel que soit le courant politique. Le constat de l'absence de consensus autour d'un projet gouvernemental qui était somme toute assez modéré, il avait été construit pour ça. Et celles et ceux qui ont voté la censure auraient pu avoir de la considération pour les citoyens, pour les entreprises, en considérant que rajouter des difficultés aux difficultés, c'était vraiment entraver la marche des entrepreneurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je considère que ça entrave significativement la marche des entrepreneurs. Et là, moi, j'ai envie de dire au gouvernement et aux hommes politiques, de manière générale, stop. Je veux dire, ça suffit, quoi. On en a marre maintenant de vos tergiversations. Nous, ce qu'on veut, c'est une politique de la politique, et une politique en particulier pour le logement et pour les TPE-PME qui sont en train de mourir. On en est à 70 000 dépôts de bilan des TPE-PME. 98% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés ou de 50 salariés. Voilà, donc il faut revenir à un principe de réalité. J'entendais quelqu'un de la CPME dont je trouve qu'on l'entend pas suffisamment, même s'il y avait Éric Martin du MEDEF ce matin, oui, présent au congrès. J'avoue que j'ai du mal à me reconnaître dans le MEDEF, parce que c'est une organisation dont les membres ne correspondent pas aux standards des réseaux immobiliers comme les nôtres. Mais la CPME, qui est censée être proche des TPE-PME, je trouve qu'elle est particulièrement silencieuse dans cette période de trouble. Et moi, je voudrais que vraiment, à un moment donné, les hommes politiques prennent conscience des dommages collatéraux. Alors, c'est mineur. Aujourd'hui, Valérie Létard vient pas. On va s'en remettre, hein, je vous rassure. Mais voilà. Et je trouve que l'économie française, dans sa profondeur, est en souffrance.
Ouais, et justement, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier ce qui se passe, en fait? C'est vrai que le gouvernement, alors Macron, n'apporte pas beaucoup, n'a pas beaucoup d'intérêt pour le logement. On le voit depuis ces deux élections. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Alors, on a parlé beaucoup de choses, hein. Les syndicats ont parlé d'un statut du bailleur privé pour inciter les investisseurs, on a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faudrait commencer par faire selon vous?
Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a posé la question aux professionnels de l'immobilier, on a réuni 70 ou 80 professionnels de l'immobilier, oui, qu'on a fait plancher sur 200 mesures, le CNR logement, et une fois que cette synthèse, un peu à l'instar de la dimension écologique, si vous voulez, une fois que cette synthèse est sortie, en fait, ils n'en ont absolument rien retenu et rien mis en œuvre. Donc c'est là où je vous dis qu'il y a une...
Oui, ça a servi à rien, au final.
Non, ça a servi à rien. Donc il y a une espèce de mépris pour la société civile dont j'ai le sentiment qu'elle est en train de s'amplifier, que les hommes politiques ont le sentiment de détenir la vérité, alors qu'en fait, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils n'y connaissent strictement rien, mais absolument rien, encore moins nos métiers d'ailleurs.
Alors c'est quoi? C'est une aversion de l'immobilier pour
non,
les politiques?
Non, c'est pas une aversion de l'immobilier, c'est même pas une aversion.
Des pro-marchés financiers?
Non, c'est une méconnaissance totale. Une méconnaissance totale, voilà. Parce qu'ils ne connaissent absolument rien de ce qu'est le marché du logement. Alors, je ne parle pas de la Valérie Létard, dont on dit qu'elle est initiée, mais tant mieux, si c'est le cas, je m'en réjouis. Enfin, moi, ce que j'observe, en fait, c'est que depuis 2022, on a eu 4 ministres du logement. Et en fait, il s'est strictement rien passé, ou à peu près rien passé. Donc, en fait, moi, ce que je constate, c'est que finalement, heureusement que les Français ont plus confiance dans la pierre et dans les agents immobiliers qu'ils n'ont confiance dans leur gouvernement. Finalement, c'est ça qui nous sauve, quelque part. Voilà.
Et là, avec ce qui se passe, bon, après, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais les remontées terrain, quelles sont-elles ? Est-ce que, on dit toujours, quand il y a des événements politiques comme ça, une instabilité au niveau du gouvernement, c'est vrai que ça freine les Français, hein, ça freine quand on a envie d'acheter. Ça peut, voilà, on peut remettre à plus tard un projet. Est-ce que c'est ce que vous constatez ?
Non, moi j'ai constaté à ma grande surprise que cet été, il s'était passé exactement le contraire. Voilà.
Après la dissolution, du coup.
Ouais, après la dissolution. Quand il y a eu la dissolution, un peu comme vous venez de le dire, Bérénice, je me suis dit, oula, là ça va entraver les projets d'achat et la situation était déjà compliquée. Je me suis dit, au moment où on commençait à reprendre un peu des couleurs au printemps, au début de l'été, je me suis dit, ça va aller beaucoup mieux. Et puis là, tout d'un coup, on est entravé par cette dissolution, parce que les gens vont un peu se poser des questions sur savoir. En fait, il s'est passé le phénomène contraire. On a fait un très bon été. Et vous savez pourquoi ? Parce que les Français.
Grâce au taux ?
D'abord, les taux avaient déjà baissé deux fois, si vous voulez, en quelques mois. Et puis, les Français se sont dit le contraire. Ils se sont dit, là, il y a une vraie incertitude politique. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé en septembre.
Donc, c'est le moment d'acheter.
Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils se sont décidés tout seuls en disant, on sait, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, on sait ce qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'on aura demain, ni en termes de fiscalité, ni en termes de droits d'enregistrement. Et la preuve en est qu'ils ont eu raison, parce que on s'acheminait vers une augmentation des droits d'enregistrement. Donc, si vous voulez, ils ont bien
fait. Qui est tombé à l'eau, finalement.
Mais ils ont finalement saisi cette opportunité en disant, tiens, on a un projet, autant le faire maintenant. Ouais. Les taux ont déjà baissé deux fois. Est-ce qu'ils vont pas augmenter ? Est-ce que la fiscalité va pas changer ? Est-ce que les droits d'enregistrement vont pas changer ? Est-ce que la plus-value, vous le savez, sur les résidences principales, ne va pas changer ? Est-ce que
c'est tombé à l'eau, heureusement aussi.
C'est tombé à l'eau, mais enfin, les effets d'annonce, ils sont dévastateurs.
C'était des annonces chocs, hein, mais c'était, l'effet voulu, l'effet désiré, en fait, ces annonces chocs par des parties.
Bah, finalement, ça nous a bien aidé.
Ouais, finalement, oui, ça vous a bien aidé.
Et on a fait un bon été.
Et quand vous parlez de ces. C'est quoi les profils de ces personnes qui, justement, ont signé des compromis cet été ? C'est des primo-accédants ?
Non, pas nécessairement.
Pas forcément. Des secondo-accédants.
Faut pas qu'on soit tous un peu omnibulés par les primo-accédants.
On en a beaucoup parlé parce que c'est vrai que c'est un peu la locomotive du marché. C'était eux les plus impactés
pendant la crise, vous trouvez pas ? Pas vraiment. Moi, j'ai pas l'impression. Vous savez, il y a un temps pour tout. Peut-être aussi que dans l'immobilier, quand on a vu des marchés à 1 million, 1 200 000 transactions, peut-être qu'on a poussé aussi à l'accession des gens qui n'avaient pas forcément envie ou dont, pour lesquels, pour certains d'entre eux, c'était un peu prématuré. Moi, je crois qu'il y a des vérités temporelles. Quand on démarre dans la vie, si on est locataire, c'est pas bien grave. Si on reste locataire quelques années, c'est pas bien grave. Ce qui rend les choses difficiles aujourd'hui, c'est que l'accès à la location est encore plus compliqué que l'accès à l'achat.
C'est ça l'anomalie
du marché. Donc finalement, ça précipite dans l'acquisition peut-être des gens qui devraient pas le faire. Voilà.
Des achats prématurés, est-ce que ça veut dire qu'on peut regretter un achat immobilier ?
Moi, je pense que oui, parce que à un moment donné, si vous voulez, on peut avoir un trou dans sa vie professionnelle, une difficulté quelconque, et quand vous avez vraiment acheté de manière ultra tendue, avec un financement ultra tendu, ben si vous avez la moindre difficulté ou l'augmentation, inattendue des charges de copropriété ou une problématique quelconque dans un logement, dans un lotissement, ben vous n'êtes pas capable de faire face à ces séances-là. Donc, moi, je pars du principe que l'acquisition d'une résidence principale, ça doit être un acte de bonheur et pas un phénomène de... C'est pas une contrainte, si vous voulez. Ça doit être un choix de vie heureux et non pas un choix contraignant. On peut pas se retrouver dans la difficulté. C'est pas la vocation de l'achat d'une résidence principale.
Et ça, vous constatez que ça a été le cas pour des...
Non, je constate pas vraiment que... D'abord, on ne sait pas le mesurer. Pour être tout à fait transparent avec vous, on sait pas le mesurer. Mais je voudrais pas que ça devienne le cas. C'est-à-dire que finalement...
Pousser les gens à la consommation.
Je crois que c'est pas très grave si même quand on est jeune, si on démarre par la location, c'est pas très grave. Voilà. Encore faut-il, et c'est là le vrai souci, qu'on trouve un logement à louer. Voilà.
Alors justement, donc cet été ça allait mieux, des compromis ont été signés. Qu'en est-il de cet automne et là de cette fin d'année ?
Non, pour l'instant ça va bien. Ouais, franchement ça va.
Par rapport à l'année dernière,
les taux ont baissé. Nous, on est en progression par rapport à l'année dernière. Les taux ont baissé de nouveau, vous le savez. Donc, ils ont quand même baissé trois fois depuis le début de l'année. On va se stabiliser, comme je l'avais dit d'ailleurs, autour de 3%, qui nous paraissent être des taux normaux pour un marché
qui est plutôt
normal.
Pas mal. Hein.
Qui est plutôt pas mal.
Ce matin, j'étais en plateau avec Philippe Briand, qui me disait...
Je vois bien de qui il s'agit.
Voilà. Que le premier appartement qu'il avait acheté, c'était à 18 ans. Il avait emprunté à 16%.
C'est ça.
16%.
Et il est toujours vivant. Il n'en est pas mort d'avoir emprunté à 16%.
Et ça s'est plutôt bien passé pour lui.
Passé pour lui, comme quoi, voilà. Non, mais voilà, je trouve cet exemple assez intéressant. Moi aussi, je suis une génération comme Philippe où on a emprunté à des 10, 12, 14, ouais. 16%. Alors, avec une inflation, bien sûr, qui était elle aussi à 10, 12, 14%. Mais bon, voilà, aujourd'hui, l'inflation, on parle de 1,5. Donc, quand vous empruntez à 3, il n'y a pas de scandale. Le différentiel, c'est le produit net bancaire. Il ne faut pas oublier que les banques doivent gagner leur vie aussi quand elles vous prêtent de l'argent.
Donc, alors, peut-être un peu de pédagogie aussi à faire. Hein, c'est vrai que pour les acheteurs qui n'ont connu que des taux à 1%, autour d'1%, bon, là, déjà, je pense qu'ils se sont habitués. Ils ont compris qu'on s'éloignait des taux à 1%, ça ne reviendrait pas. Mais peut-être de la pédagogie, comme vous dites, de la pédagogie à faire pour l'achat, pour la revente.
Bien sûr, bien sûr.
Beaucoup de pédagogie, au final.
Beaucoup de pédagogie sur les prix, sur les taux, sur la réalité du marché.
Oui.
Sur les bonnes opportunités, est-ce que c'est le moment d'acheter, de pas acheter? Moi, je crois qu'il faut aussi, je crois que chez nous, on a le courage de dire parfois à certaines gens que c'est pas le moment pour d'acheter, que ça va être une solution compliquée. Je vous dis encore une fois, là où on est gêné, c'est que le marché locatif est encore plus tendu que le marché des transactions. Donc, finalement, c'est ce qui pêche un peu dans l'écosystème de l'immobilier aujourd'hui. Voilà.
Et ça, c'est à cause de quoi? C'est justement parce que le marché de la transaction a ralenti? C'est parce que la construction est en berne? C'est quoi qui fait que
En fait, le marché de la location, il est au croisement de l'ensemble de tout. Donc, quand ça construit moins, l'investissement locatif diminue. Vous savez que 50% des achats dans le neuf étaient destinés à l'investissement locatif.
Oui, c'est
locatif,
du Pinel.
Voilà,
ou ouais.
En défiscalisation, avec l'obligation de louer pendant au minimum 9 ans. Donc aujourd'hui, cet investissement-là a disparu, à la fois par la hausse des taux et l'absence de projets. C'est aussi des Français qui n'ont pas pu se refinancer pendant quelques années ou pendant quelques mois, qui fait qu'ils ne quittent pas leur logement parce qu'en fait, ils ne sont pas sûrs de pouvoir se reloger dans les mêmes conditions s'ils n'arrivent pas à acheter. Donc il y a deux fois moins de congés, si vous voulez, qu'il y en a eu à une certaine époque. Et puis il y a aussi le logement touristique de courte durée qui fait très mal au parc locatif privé, voilà.
Oui, mais on les comprend, les propriétaires qui se tournent vers...
Bien sûr qu'on les comprend, mais c'est pour ça qu'on demandait un statut du bailleur privé, qui soit un vrai statut accompagnant celles et ceux qui font l'effort de mettre leurs biens à la location sur de la longue durée, sur un parc locatif privé réel et pas sur un parc locatif de location meublée professionnelle ou non professionnelle. Et là, une fois de plus, le gouvernement, il y a un projet de loi qui a été un peu avorté, mais globalement, vous apercevez que ce sont maintenant les municipalités qui font la police dans leur ville.
Oui, c'est vrai.
Et que là aussi, le gouvernement a été défaillant et qu'il faut que ce soit les villes qui se rendent compte que plus personne ne peut se loger dans leur ville pour mettre en place des dispositifs. Voilà.
Donc plus de pouvoir aux maires, plus de pouvoir aux communes, aux métropoles.
Il faut un statut du bailleur privé. Je crois qu'il faut... Vous savez, ce qui est dommage dans ce pays-là, c'est qu'en fait, on n'écoute jamais les gens qui les praticiens. Je le dis comme je pense. Souvent, un certain nombre de projets de loi, elles ont d'un point de vue de la philosophie originelle, elles ne sont pas contestables. C'est-à-dire l'idée, au départ, elle est bonne, elle est constructive. Ce qui est catastrophique, c'est la mise en œuvre.
Et surtout qu'il n'y a souvent pas d'études d'impact.
Voilà. Et donc, la mise en œuvre, si vous voulez, elle n'est jamais bien faite parce qu'elle n'est jamais faite en concertation avec des professionnels. Jamais. C'est-à-dire qu'on lance une idée, on ne mesure pas forcément les dommages collatéraux que ça peut représenter, et puis tout d'un coup, on met le dispositif en place et on regarde ce que ça fait. Et si ça fait 3 morts et 5 blessés, on dit « Ah ben mince alors, ça a fait 3 morts et 5 blessés ». Sauf que si vous aviez parlé avec un professionnel de la location, de la transaction, du syndic ou de la promotion immobilière, il vous aurait dit avant que ça allait faire 3 morts et 2 blessés. Donc il faut qu'à un moment donné, les hommes politiques acceptent que dans leur cabinet, de s'adjoindre, d'accord, des professionnels, d'interroger des professionnels sur la capacité de mise en œuvre des projets politiques qu'ils veulent avoir. Et une fois de plus, je le dis en toute sincérité, souvent, un certain nombre de projets de loi sont des bons projets.
Ouais.
Mais ils ne trouvent pas leur place dans le dispositif parce que la mise
mal
en œuvre
mis en place,
mal
ouais.
mis en place,
ouais,
mal sûr. Mis en place.
Bien voilà. sûr, on l'a vu avec la loi climat et résilience. C'était une bonne idée, mais
mal mise en
mais
place.
C'était très mal fait. Ouais. Voilà. Il n'y a eu aucune étude d'impact.
Aucun agent immobilier aujourd'hui ne s'insurge de la loi climat et résilience. Aucun. Il n'y a aucun agent immobilier qui remette en cause.
Tout le monde dit qu'il faut le faire, mais pas
d'accord.
de cette manière.
Voilà.
Ouais,
vous voyez,
vrai.
La nuance elle est d'importance.
Ouais.
C'est-à-dire, tout le monde est d'accord sur le principe de la loi. Et on se retrouve dans un étau dont on n'arrive pas à se sortir parce que la mise en œuvre et les conditions d'exécution n'ont pas été réunies. Et là, je dis qu'il manque une étape de concertation. Et je crois que dans chacun des cabinets ministériels, il devrait y avoir des professionnels qui accompagnent les politiques pour avoir une réflexion sur la mise en œuvre. D'aucuns diront que c'est les... Vous savez, on l'a fait souvent... D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit au début de ses mandats qu'il allait faire appel à la société civile, ce qu'il n'a pas fait. Et oui, à défaut de dire qu'on va confier des portefeuilles ministériels à des gens de la société civile, ce qu'on pourrait peut-être faire dans certains cas, d'accord ? À minima, si on décide de ne pas confier l'orientation politique à des gens de la société civile, à minima, que les chefs de cabinet ou que les cabinets se fassent accompagner par des professionnels, d'accord, pour la mise en œuvre des dispositifs dont ils ont construit et imaginé la réflexion.
Voilà. Allez, pour terminer, 2025, en quelques mots, selon vous ?
2025, ce sera une année normale, avec des taux d'intérêt normaux, avec une inflation normale, avec un marché autour de 800-850 000 ventes, qui sera un marché normal. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette période 2020-2024, si vous voulez, de 4 années de troubles pour des raisons différentes, une période de Covid, une période de surabondance de transactions 2021-2022, 2022, l'augmentation des taux, paf, la chute des volumes, et on va revenir sur ce qu'est un marché de transactions français normal, c'est-à-dire aux alentours de 800 à 850 000 ventes, ce qui était le marché d'avant la période Covid. Voilà. Mmh. Je pense que c'est le niveau de production du marché de la transaction, je parle évidemment de l'ancien, du marché de la transaction dans l'ancien, c'est autour de 800 à 850 000 ventes, et à nous les professionnels de se réhabituer à vivre avec cette volumétrie de transactions.
Eh bien, merci infiniment Charles Marinakis pour cette interview, et puis nous, on se retrouve dans quelques instants sur Radio Imo, à tout de suite.
Merci.
Le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio Immo.